Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Et je vous le disais, l'onde de choc du livre de Camille Kouchner n'en finit pas. Nouvelle étape cette semaine avec l'adoption à l'unanimité à l'Assemblée d'une proposition de loi socialiste. Objectif renforcé, la protection des mineurs contre les violences et crimes sexuels en fixant à 15 ans le seuil du non-consentement, 18 ans en cas d'inceste. Texte qui préfigure celui du gouvernement qui sera débattu mi-mars. Bonjour Martine Brousse.
Bonjour.
Présidente de la Voix de l'Enfant, vous qui portez ces questions depuis des années, vous vous dites, ça y est, on avance encore dans la protection des enfants.
Oui, j'aime bien votre « encore ». Parce que ce qui est important pour vos auditeurs, ce sont des années de combat. Nous allons entendre tout à l'heure le témoignage d'Eva Thomas, hein, qui a été cette première femme à révéler les violences sexuelles qu'elle avait subies. Ce sont des années de travail. Et des années de travail où les professionnels, que ce soit des pédiatres, que ce soit des magistrats, que ce soit des travailleurs sociaux, qui portent cette cause. Nous nous réjouissons de ce qui se passe actuellement, parce que c'est de nouveau une étape. Mais il ne faudra pas nous arrêter là. Et je pense que cette loi doit aussi nous amener à prévenir, parce que la partie répressive est importante. Mais s'il n'y a pas de prévention, nous aurons des rendez-vous tous les 2 ou 3 ans pour renforcer la loi répressive. Il nous faut mettre en place aussi une politique de prévention.
Alors, vous l'avez dit, Martine Brousse, ce combat que vous portez depuis des années au nom de la Voix de l'Enfant, une autre femme l'incarne. On peut même dire qu'elle a été une pionnière en étant la première victime d'inceste à témoigner à visage découvert. C'était en 1986, lors de l'émission des dossiers de l'écran. Bonjour Eva Thomas.
Bonjour Madame Lemoyne.
Merci infiniment d'être avec nous quelques minutes ce midi sur Europe 1. Vous aviez alors 44 ans quand vous avez raconté sur un plateau le viol commis par votre père alors que vous aviez 15 ans. Un témoignage qui avait fait l'effet d'un électrochoc à l'époque. Comment vous vivez cette parole qui se libère de nouveau avec le livre de Camille Kouchner ?
Écoutez, je suis vraiment remplie de joie parce que je vois que cette fois-ci, après différentes étapes, avec ce livre qui est formidable et qui raconte tellement le silence, le poids de la culpabilité des victimes qui portent tout pour sauver la famille. Donc moi, je suis très heureuse de voir tout ce qui s'est passé sur MeToo Inceste. Je veux dire que maintenant, ça y est, je pense qu'on ne peut pas prendre les lois qui sont nécessaires. D'ailleurs, je pense qu'à l'unanimité, on a voté une loi de protection des mineurs à l'Assemblée nationale. Donc je pense que cette fois-ci, c'est un vrai pas. Avant, c'était des petits pas. Et maintenant, je pense que là, cette fois, le gouvernement est en face de l'explosion de la parole et de la quantité de personnes qui ont été agressées, quoi. C'est devenu tellement visible que cette fois-ci, il faut prendre des mesures vraiment importantes pour protéger les enfants.
Et d'ailleurs, on n'imagine pas à l'époque ce que vous aviez entendu sur le plateau des dossiers de l'écran avec des hommes qui appelaient au standard pour dire qu'ils avaient des relations avec leurs filles et qu'ils ne voyaient pas où était le problème. Ça paraît inimaginable aujourd'hui.
Oui, mais même moi, à l'association, j'ai reçu un appel d'un homme qui disait « Pourquoi vous nous embêtez avec... Moi, je vis une superbe histoire d'amour avec ma fille, etc. Et... » J'ai dit, mais qu'est-ce que vous lui faites à votre fille? Et il m'a expliqué qu'il l'a violée, en fait. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur, c'est un crime. Et c'est condamné 20 ans de prison. Et il a raccroché. Donc, c'était, je ne sais pas comment dire, c'était vraiment, il y avait une tolérance de la société absolument incroyable. Maintenant, on se dit, mais comment ça a pu être comme ça? Mais c'était vraiment comme ça, quoi.
Vous le dites, vous avez fait beaucoup pour faire avancer le droit. Qu'est-ce qu'il faut faire encore de plus? Allonger encore la prescription? Rendre ce crime imprescriptible?
Moi, je ne suis pas d'accord pour le rendre imprescriptible parce que je pense que c'est vraiment très différent des génocides. Par contre, le garde des Sceaux a parlé de prescription glissante ou des choses comme ça. Je pense que ce sont des évolutions intéressantes. Mais je crois que peut-être qu'il faut inventer des moyens qui soient des moyens dans l'ordre judiciaire pour écouter les victimes, même quand il y a prescription. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe, puisque maintenant, quand on fait un signalement au procureur, jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment utilisé, alors que là, c'est gardé au cas où d'autres personnes auraient été agressées par le même agresseur, quoi. Donc, il y a des progrès comme ça. Et...
Pour vous, il faut que le droit passe d'une manière
ou
d'une autre.
D'une façon ou d'une autre. Moi, je crois très fort à l'efficacité symbolique de la loi.
Vous attendez beaucoup, justement, de ces débats en ce moment. Pour vous, c'est salutaire, il ne faut pas que la chape de plomb retombe.
Non, et puis je pense qu'il y a aussi autre chose. Il faut s'attaquer au problème, enfin à la source du problème, et ce sont les agresseurs. Et on sait très bien qu'une grande partie d'entre eux ont été agressés dans leur enfance, et que donc il faut casser cette répétition, c'est pas possible, quoi. Et donc il faut soigner les violeurs en prison. Toutes ces questions-là, ça c'est pour aller de l'avant, quoi.
Bien sûr.
Il faut continuer à travailler dans cette direction.
Une dernière question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire si une victime d'inceste nous entend?
Alors, croyez en vous, croyez en vos forces. Et surtout, je pense que chacun a inventé son chemin. C'est très important de sentir son autonomie, de retrouver son autonomie pour se redresser. J'ai envie de dire aussi qu'on n'est pas victime toute sa vie et qu'après la traversée difficile et douloureuse, il y a la vie qui vous appelle. C'est la vraie vie. La vie qu'on peut savourer, comme tout le monde, quoi. Ça, je peux confirmer que ça existe, puisque je l'ai vécu.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment, Eva Thomas. Merci infiniment.
Bon, bah, merci à vous.
Voilà pour cet échange avec Eva Thomas que nous avons réalisé quelques minutes avant le journal. Je sais, Martine Brousse, je rappelle, toujours avec moi en studio, présidente de la Voix de l'Enfant, combien ce témoignage vous parle.
Oui, et je suis ravie que vous ayez fait cet enregistrement avec Eva Thomas. Et je souhaite vraiment que nous l'entendions dans les semaines à venir, tout au long des discussions qu'il va y avoir, parce qu'il faut que nous évitions. C'est la voix de la sagesse, Eva Thomas. Elle a toujours su prendre cette distance et nous amener à une réflexion de fond, ce qui n'empêche pas la souffrance des victimes, ce qui n'empêche pas qu'il faut en faire entendre leur voix, qu'il faut qu'il y ait des réponses, comme elle le dit, et des réponses par la loi. La loi doit être dissuasive aussi, mais il faut aussi que nous allions de l'avant et que nous puissions aujourd'hui faire des propositions qui vont permettre à ces enfants qui sont victimes de pouvoir libérer leurs paroles, d'être pris en charge, mais pas uniquement pris en charge comme objet de procédure, mais pris en charge aussi avec leur souffrance et donc au niveau du soin et accompagné.
Justement, Martine Brousse, présidente de la Voix de l'Enfant, par rapport au droit qui doit être adapté, comme l'a dit Emmanuel Macron, est-ce que pour vous, justement, cette prescription doit aussi être allongée?
La Voix de l'Enfant partage tout à fait ce que vient de dire Eva Thomas, c'est-à-dire que nous pensons que l'imprescriptibilité doit être réservée aux crimes contre l'humanité. La Voix de l'Enfant a fait une proposition au garde des Sceaux d'une imprescriptibilité dans le cadre d'une procédure civile. Nous l'avons expérimenté à la Voix de l'Enfant.
Ça veut dire qu'en gros, pas de procès pénal, mais la reconnaissance quand même qu'il y a eu...
Pour les victimes qui le demanderaient, une fois que la prescription est passée, c'est-à-dire 48 ans, hein, c'est 18 ans et 30 ans après la majorité, donc 48 ans, il y a des victimes qui choisissent de ne parler qu'après ce passage de la prescription. Elles parlent parce qu'elles ne veulent pas de procès, elles ne veulent pas être mises comme ça devant une cour d'assises.
Mais elles veulent quand même que le droit reconnaisse qu'elles ont été victimes.
Voilà, elles veulent être reconnues. Et l'expérience que nous avons eue dans le cadre de procédure civile, c'est un magistrat dans son cabinet qui convoque la personne mise en cause, la victime. Et les quatre fois où nous l'avons fait, les personnes mises en cause ont reconnu les faits. Et la victime est sortie en ayant vraiment le sentiment d'avoir été reconnue comme victime. Je pense qu'il faut... Il n'y a pas de réponse unique par rapport à l'ensemble des victimes. Qu'elles soient victimes d'inceste ou victimes d'autres types de violences sexuelles. Parce que certes, c'est 70-80% intrafamiliales. Mais il y a aussi toutes les autres victimes de violences sexuelles qu'il faut prendre en charge. Et il faut faire attention de ne pas créer une discrimination avec ces deux seuils d'âge. La Voix de l'Enfant est
c'est-à-dire
très
que vous,
soucieuse.
Vous n'êtes pas favorable au fait qu'on fasse une distinction sur l'âge du consentement entre 15 ans et 18 ans pour ce qui concerne l'inceste, parce qu'on dit que l'emprise est d'autant plus importante que ça se passe au niveau familial.
C'est vrai, mais la Voix de l'Enfant considère qu'on risque de créer des discriminations. Nous sommes en train de travailler sur tous les types de familles aujourd'hui, ou tous les types d'accueil. Un enfant qui est placé à l'âge de 3-4 mois, chez une assistante familiale, qui va être violée pendant toute son enfance, qui part à 18 ans. Lui, son seuil d'âge, ça sera 15 ans. Pourtant, c'est le modèle de la famille. Je donne cet exemple-là parmi d'autres. Et puis, il nous paraît surtout important que nous devons d'abord et tout faire en sorte qu'il y ait ces réponses juridiques, mais aussi
la
qu'il y ait de la prévention.
Alors justement, Emmanuel Macron, lorsqu'il a réagi à ce mouvement MeToo un test avec une vidéo depuis l'Élysée, a parlé de la possibilité de rendez-vous médicaux au sein de l'enceinte scolaire où l'enfant pourrait parler, être, non pas questionné, mais en tout cas pourrait être interrogé autour de et lui donner l'occasion de libérer cette parole. Est-ce que c'est ça que vous appelez de vos voeux, justement, qu'à l'école, on soit plus vigilant encore ?
Alors, ce que nous appelons de nos voeux, et lundi, il y a une réunion, mardi, pardon, il y a une réunion avec notre secrétaire d'État, Adrien Taquet, et le ministre, et le ministre de l'Éducation nationale, qui met en place un groupe de travail sur ces questions. Ce que demande la voix de l'enfant, c'est que dès la maternelle, de la maternelle jusqu'à la fin du collège, tous les ans, dans chaque classe, il y ait un professionnel, que ce soit un pédiatre, un magistrat, un travailleur social, une association qui est reconnue comme telle, pouvant informer que tous les ans, les enfants puissent entendre.
Et qu'est-ce qu'on leur dit parler. Parce que c'est difficile d'aborder ces questions-là, surtout au plus jeune âge.
Ce n'est pas difficile. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Faisons pas peur aux enfants. Ne disons pas à un enfant qu'il va être à un moment donné violé ou autre. Non. Ce qu'il faut, c'est leur expliquer, déjà leur parler de leur corps. De ce qu'est leur corps, du respect que nous devons avoir, nous les adultes, vis-à-vis d'un corps d'enfant, et puis aussi les copains vis-à-vis ou copines vis-à-vis d'eux, et puis aborder ces questions. Il faut que nous en parlions. Le problème, c'est que très souvent, les enfants ont peur parce que, d'abord, ils ont honte, ils se sentent coupables. Déjà, si nous pouvons leur dire, mais si jamais, parce que la majorité des enfants ne seront pas victimes, et ça, il faut le dire, mais si jamais ils étaient victimes, il ne faut pas avoir honte, ils ne sont pas coupables, ce n'est pas de leur faute. Et surtout, si je peux me permettre, appelez le 119, et je dis le 119 pour les plus jeunes, 119 119, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'ayez pas peur d'appeler ce numéro. Et puis il y a la plateforme maintenant, où ils peuvent aussi envoyer une information par mail. Et bientôt, il y aura le chat. Donc voilà, les choses se mettent en place, il y a une volonté, nous nous réjouissons de cette volonté, mais faisons attention de voir large. Hein, ne rétrécissons pas nos positions. Voyons large pour permettre à tous les enfants victimes et au-delà même des violences sexuelles. Rappelons qu'actuellement, il y a 1 à 2 enfants qui meurent sous les coups de leurs parents par semaine.
Merci beaucoup Martine Bruce. Bruce, présidente de la Voix de l'Enfant, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et la prochaine étape, ce sera aussi ce débat le 15 mars à l'Assemblée nationale avec...
Très important.
Très important. On voit que le débat est lancé, qu'il doit continuer.
Et souhaitons qu'il soit le plus serein.
Et qu'il soit apaisé, on l'a bien compris.
Et juste si je peux me dire, souhaite aussi qu'il n'y ait plus de 125 députés, car il n'y a eu que 127 députés qui ont voté ce premier texte, cette proposition. Donc je souhaite que l'hémicycle soit plein.
Continue à se mobiliser.
Parce que c'est un problème et c'est un phénomène de société.
Merci infiniment pour cet appel lancé sur Europe 1.